Et donc, je vous propose de continuer dans notre étude des psaumes. Et cette fois-ci, je vous propose d'étudier ensemble le psaume 8. Alors, c'est un psaume qui est, vous allez voir, qui est très connu. Les versets que je vais vous lire, vous allez voir, ce sont des versets qu'on a dans la tête. Probablement parce que ce sont des versets qui parlent de la gloire de l'homme. Et je pense qu'on a toujours du plaisir à entendre quelque part nos propres louanges. Et peut-être c'est pour ça qu'on arrive à s'en rappeler. C'est aussi un psaume qui est cité à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament. Si je l'ai choisi, c'est parce que... Alors d'abord, on a lu ensemble ce psaume avec les enfants dimanche dernier. C'était un des enfants qui l'avait choisi. Et en préparant la rencontre qu'on a eue de notre groupe de maison qui a eu lieu cette semaine, pendant lequel en fait on a parlé avec Daniel et on a évoqué donc le livre qu'il a écrit dernièrement et qui nous parle de donc en tout cas qui fait mention de des destructions causées par l'homme, et donc là en particulier pour les Indiens d'Amérique, la façon dont ils ont été décimés, dont leur culture a été écrasée, et aussi la part qu'ont pris les chrétiens dans ce drame, et la façon dont finalement cette destruction de ces cultures a donc été présentée comme résultant en fait d'une mentalité de conquête et de domination et même de progrès, et la façon dont voilà notre culture occidentale a mis en œuvre cette idéologie de conquête et les conséquences que ça a eu. Et ce psaume nous parle d'une certaine façon de la façon dont l'homme maîtrise la nature. Alors, je vous propose d'étudier ce texte en trois temps. Le premier, c'est en essayant de reprendre le regard de David, donc celui qui a écrit ce texte, écrit ce psaume, la façon dont lui l'a écrit et ce qu'il a voulu en dire à son époque et comment les gens de son époque ont pu le recevoir. Donc, on va essayer de comprendre, enfin de lire le texte avec ce regard-là. Juste avec un deuxième regard, ce texte est cité à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament à propos de Jésus, et on va essayer de voir là aussi comment est-ce que Jésus va réinterpréter ce texte et l'éclairer d'une façon un petit peu différente. Et finalement, on va essayer de le lire avec nos yeux à nous, par rapport à notre culture, à notre société, avec notre histoire, avec ce que j'ai dit là tout à l'heure, ce qu'on a vécu de la façon dont l'homme arrive à notre époque vraiment au bout de la logique de domination du monde, de domination de la nature. Et, donc on va essayer aussi de le lire avec nos yeux finalement, nos yeux à nous. Donc je lis ce psaume. Donc je le lis dans la traduction du Semeur. Donc au chef de chœur, un psaume de David, à chanter avec accompagnement de la harpe de Gath. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires, pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Ce psaume commence et se termine en affirmant la gloire de Dieu sur la terre tout entière. Le début et la fin. C'est une figure de style commune hein, dans les psaumes, cette structure en chiasme. Et je pense que là, elle prend vraiment un sens tout particulier. Au cœur de le milieu de ce psaume nous parle de la gloire des hommes. Il nous dit que Dieu a couvert l'homme de gloire et d'honneur. Et cette gloire et cet honneur sont encadrés, commencent et se terminent par une évocation de la gloire de Dieu. Et je pense que c'est important d'avoir cette idée-là en tête, que notre gloire commence et se termine, est encadrée et limitée par celle de Dieu. Et c'est une notion sur laquelle on reviendra plus tard. C'est important de voir aussi que David nous dit « La gloire de Dieu est présente, est admirable sur la terre entière ». Je ne sais pas exactement ce que David connaissait du monde au moment où il écrit ça. Probablement beaucoup moins que ce que nous on en connaît maintenant. Bien sûr, le Nouveau Monde était une terre inconnue. Probablement une grande partie de l'Europe, une grande partie de l'Afrique était inconnue, une grande partie de l'Asie. Il devait connaître le Moyen-Orient, le tour de la Méditerranée, un petit peu vers l'Orient. Bon, il a une vision. David avait une vision du monde qui était limitée, celle de son époque. Et pourtant, il affirme que la gloire de Dieu est admirable sur la terre entière. Et on sait aujourd'hui que c'est vrai que dans chaque culture, les hommes ont eu cette idée, cette révélation finalement, qu'ils ont été créés et que d'une façon ou d'une autre, un Créateur leur a donné la vie. Cette gloire de Dieu était présente sur la terre entière, au-delà même de ce que David pouvait en connaître. Et il nous parle de la louange que les enfants et les nouveau-nés font jaillir. Et c'est vrai qu'en lisant ce passage-là, je me suis demandé qu'est-ce que David veut dire quand il parle de cette louange. Je ne suis pas sûr d'avoir de réponse à ça. On verra tout à l'heure que Jésus va répondre à cette... va donner une incarnation à cette parole-là. Mais au moment où David la prononce, je ne suis pas très sûr de savoir ce qui veut dire, mais en tout cas, on voit que cette louange est une louange qui fait taire les rebelles à Dieu, qui fait taire les adversaires. Et en réfléchissant à qu'est-ce que ce cri de nouveau-né pouvait bien représenter, je me suis rappelé le premier cri de mes enfants. Ceux qui ont vécu ça se rappellent de la joie que ce cri suscite. Ce cri qui marque qu'un enfant est né, qu'il est vivant. Et ce cri, je pense, nous rappelle. Et rappelle à ceux qui se rebellent contre Dieu, qui finalement veulent prendre sa place et s'affirmer comme étant maître de leur vie, maître de leur destin. Eh bien, ce cri nous rappelle que nous avons été créés faibles et créés de telle sorte que nous avons eu besoin de l'amour de nos parents pour survivre. Ce cri est un cri de un cri pour la vie, un cri de besoin de protection et je pense, en tout cas, je l'entends de cette façon-là. Ce cri peut nous aider à reconnaître que nous sommes créatures de Dieu. David contemple, après avoir contemplé la faiblesse, je vais dire, de l'être humain dans son enfance, David contemple le ciel, contemple l'immensité de l'univers. Et là aussi, David a une compréhension limitée de la taille, de ce que représente l'univers. Il le voit avec les connaissances de son époque, sans avoir conscience du fait qu'il est sur un globe de terre et d'eau, plongé au milieu d'un système solaire, plongé au milieu d'une galaxie, au milieu d'un univers qui sont incroyablement grands, qu'il vit un temps incroyablement petit par rapport à la durée de cet univers. David a une conscience limitée de tout cela, et pourtant il prend conscience de la petitesse de l'homme au milieu de cet univers, et il pose cette question: qu'est-ce que l'homme pour que toi, le créateur de l'univers, tu t'intéresses à lui? Une humilité naturelle qui est finalement repris par beaucoup de d'agnostiques ou d'athées qui vont dire que finalement l'homme est trop petit pour que l'homme puisse s'intéresser à lui. C'est une question et une façon d'aborder le monde qui est finalement assez commune. Mais David, lui, va pas s'arrêter à cette question et à ce constat de la petitesse de l'homme, et il va revenir à la révélation de la création, et il va reprendre un texte qui finalement vient de la Genèse et qu'on trouve au verset donc au chapitre 1 et au verset je vais lire à partir du verset 26, où Dieu dit: faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux de toute terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, hommes et femmes. Et Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit: voici, je vous donne pour vous nourrir toute plante portant de la semence partout sur la terre et tous les arbres faisant porter leur semence. La gloire et l'honneur de l'homme, c'est bien sûr d'être l'image de Dieu. Ce texte nous dit tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et on voit que cette révélation nous place dans une hiérarchie. Dieu donne la vie, il donne autorité à l'homme au-dessus de la création. Et bien sûr, se pose la question de qu'est-ce que c'est que cette autorité qui a été donnée. Comment est-ce que l'homme l'utilise? Qu'est-ce qu'il en fait? Comment est-ce qu'il se positionne dans ce rapport hiérarchique au-dessus de la création? Et on peut voir que bien sûr le péché transforme ce don que Dieu fait à l'homme. On peut voir ça très vite dans la Genèse encore. On peut voir ça au moment où Dieu va bénir Noé, et il va reprendre les mêmes paroles que celles qu'on a lues dans le premier chapitre. Donc on trouve ça dans Genèse 9. Donc ça se passe après le déluge. Donc Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous inspirerez désormais la crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et à tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Tout ce qui remue et visse vous servira de nourriture au même titre que les légumes et les plantes. On voit que ce qui est donné à Noé change par rapport à ce qui a été donné, originellement. Désormais, la domination passe par la crainte et la terreur. La nourriture qui était une nourriture végétale, dans le premier passage, devient une nourriture animale. Il faut dorénavant tuer les animaux pour s'en nourrir. On voit donc que le péché et la chute modifient la façon dont la domination de l'homme va s'exercer sur la terre. Donc voilà ce qu'on peut dire de la façon dont David exprime la grandeur de Dieu, la grandeur de l'homme et sa place dans la création. Et on va voir que Jésus va réinterpréter ce passage-là. Il va le réinterpréter de deux façons différentes. On va lire deux passages. Le premier dans l'évangile de Matthieu, où on va voir comment la notion d'enfant qui loue Dieu, comment Jésus va l'incarner. Et on trouve ça dans Matthieu chapitre 21, et je lis à partir du verset 12. Jésus entra dans la cour du temple, et il en chassa tous les marchands, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons, et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites un repaire de brigands. Les aveugles et les paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple, et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, et quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David !» ils se mirent en colère et lui dirent, « Tu entends ce qu'il crie ?»« Parfaitement, leur répondit Jésus, « Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole ? De la bouche des tout-petits et de celle des nourrissons, tu as su tirer ta louange. » Puis il les laissa et il quitta la ville. Le Nouveau Testament lit ce psaume comme une prophétie. Une prophétie qui s'accomplit en Jésus. Les enfants qui n'avaient pas le droit de rentrer dans la cour du temple, de même que les aveugles et les paralysés, Jésus les fait rentrer dans cet endroit de la rencontre avec Dieu. Il les fait entrer dans cet endroit et les enfants vont le reconnaître comme le roi, comme le Messie qui était attendu. Et cette louange des enfants va faire taire ceux qui étaient, alors on va faire taire dans le sens va les confronter, va leur montrer leurs limites, va confronter ceux qui s'opposent et qui se rebellent contre Dieu, en l'occurrence là les responsables religieux de son époque. Donc le Christ suscite la louange de la bouche de ses enfants. Et ensuite, le Christ va accomplir et incarner cette autorité donnée à l'homme, donnée dès l'origine, mais corrompue par la chute. Et le Christ va incarner cette autorité et la porter encore à un niveau supérieur. On peut lire ça dans Hébreux au chapitre 2, et je vais lire à partir du verset 5. Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, un texte de l'Écriture déclare « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui ? Tu l'as abaissé, pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En soumettant toutes choses à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. » L'autorité de Christ va au-delà de la création, au-delà des animaux et de la nature. Un texte parallèle dans 1 Corinthiens 15 nous dit que toute autorité, toute puissance lui a été soumise au moment où il a accepté de mourir à la croix. Toute autorité a été soumise à celle de Christ. Et donc ce texte nous montre bien que c'est Christ qui accomplit cette promesse que Dieu a fait à l'homme de lui soumettre la nature, et Dieu va donner à Christ autorité sur non seulement la nature, mais aussi toutes les dominations et tous les pouvoirs. Et le texte nous dit même, dans 1 Corinthiens 15, que au bout, ce sera la mort elle-même qui lui sera soumise. Et donc, quand on se pose la question de savoir, mais quelle est cette autorité dont le texte nous parle, eh bien, nous voyons que cette autorité, le modèle de cette autorité, c'est d'abord celle du Christ. Celle du Christ pour qui toutes choses ont été mises sous ses pieds. Donc si nous posons la question de savoir comment nous-mêmes nous pouvons exercer cette autorité, eh bien la réponse est en Christ. Le modèle de l'autorité telle que Dieu nous la donne, nous la trouvons en Christ. Et donc arrivons maintenant à la façon dont nous-mêmes nous pouvons lire ce texte. Donc j'ai déjà parlé de la façon dont l'homme a dominé la nature, l'a polluée, l'a détruite, dont l'homme a choisi d'exercer cette autorité par la domination et la puissance, et comment cette façon d'exercer la domination détruit des peuples, des cultures, finalement, nous en arrivons maintenant au moment où effectivement notre domination du monde arrive à notre propre destruction. Et effectivement, la notion de cette conquête que l'homme a cette volonté de domination et de puissance, elle a eu un coût important. Et une des premières questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que le prix que nous payons pour dominer en vaut vraiment la peine? En réfléchissant à ce que je pouvais comprendre de ce passage, la question du progrès et la façon dont nous le comprenons et le vivons, cette question était finalement assez centrale. Et donc cette question m'est aussi venue à cause effectivement de tout ce qu'on a partagé avec Daniel sur la destruction des Indiens et des conséquences de l'arrivée des Occidentaux dans le Nouveau Monde. Et donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu, de comprendre un peu comment cette idée de progrès qui imprègne notre société, comment est-ce qu'elle s'est construite. Alors bon, il y a évidemment beaucoup de choses à en dire, mais peut-être c'est intéressant d'arriver à comprendre que cette notion de progrès est une notion qui a été vraiment mise en avant à partir du XVIIe siècle, grosso modo. Et j'ai trouvé une citation. Donc, en fait, au XVIIe siècle, il y a eu un basculement dans la façon dont l'homme comprenait sa place dans le monde. Auparavant, l'homme recherchait, enfin, disons, les intellectuels poussaient à retrouver un âge d'or. C'était comme ça qu'on pensait pouvoir améliorer les choses. Non pas aller vers un futur meilleur, mais retrouver finalement un âge d'or qui avait été perdu. Donc l'idée de rechercher dans le passé et dans ce que les anciens avaient écrit, de retrouver finalement ce qu'était une société parfaite, et donc en particulier ce qui pouvait se passer en Éden. Donc là pour les chrétiens, mais pour l'ensemble de la société médiévale. Donc l'idéal, c'était l'âge d'or qui avait été perdu. Et à partir du XVIIe siècle, il y a eu un changement de façon de comprendre le monde. Et de l'âge d'or, on est passé à une recherche de, on va dire, de l'utopie, de quelque chose que l'homme pourrait construire et améliorer, qui n'avait jamais été réalisé auparavant. Et un des auteurs précurseurs de cette façon de penser, hein, qui est la façon de penser des, on appelle ça les Lumières. Donc beaucoup d'intellectuels ont participé à la construction de cette philosophie, hein, en France et en Angleterre et dans le, enfin essentiellement et en Allemagne. Donc l'idée, donc là je cite un passage de, donc qui s'appelle, c'est un gars qui s'appelle Francis Bacon, qui a vécu donc au début du XVIIe. Donc où il imagine donc le futur que le progrès pourra construire, et il dit donc nous pourrons atteindre une jeunesse presque éternelle, une guérison de toutes les maladies incurables, nous pourrons augmenter nos capacités cérébrales. Donc il écrit ça en 1605, hein, nos capacités cérébrales, créer de nouvelles espèces, créer de nouveaux aliments. Le progrès, c'est la réalisation de toutes les choses possibles. Quand on lit ce texte-là, moi, ça me fait complètement penser à ce que nous proposent actuellement les maîtres à penser de la Silicon Valley et le transhumanisme et ce genre de choses. Parce que au bout du compte, ce que Bacon entrevoyait il y a 400 ans, et ben on y est là. On y est là. Les nouvelles espèces, l'augmentation des capacités cérébrales, les nouveaux aliments, la guérison des maladies incurables, et au bout du compte, la jeunesse éternelle, c'est bien ça que nous promettent les technologies que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc cette idée de progrès qui a construit notre société actuelle, dans laquelle l'homme se place comme étant celui qui maîtrise et qui domine finalement son environnement. Donc en cherchant un petit peu toujours à réfléchir sur ce sujet-là, je suis tombé sur un nom que j'avais déjà entendu, un auteur que j'avais envie de lire depuis un petit moment, un gars qui s'appelle Jacques Ellul. Je sais pas si quelqu'un connaît Jacques Ellul, a déjà lu. Alors effectivement, donc c'est un penseur protestant qui a vécu 1912 1994, donc qui est notre contemporain. Et donc c'est un professeur, hein, il était très impliqué dans la vie intellectuelle française. Alors et il a beaucoup réfléchi sur une critique assez virulente de la société et de la façon dont elle se construisait. Et donc la façon dont il a compris les forces qui agissaient dans la société, c'était que finalement depuis la fin de la révolution industrielle, c'est que notre société était dominée et conduite par un culte du progrès. Un culte du progrès qu'il appelle une société technicienne. Une société qui est conduite par l'idée de rechercher par tous les moyens rationnels la plus grande efficacité. Et que cette recherche de la plus grande efficacité, eh bien finalement, c'est le dénominateur commun de tout ce que notre société met en œuvre. Et que, au bout du compte, quelles que soient les politiques, quelles que soient les réformes, quelles que soient même les révolutions, eh bien, au bout du compte, tout revient à cette logique d'augmenter l'efficacité. Alors, l'efficacité dans tous les domaines de notre vie, autant l'efficacité technique, mécanique, l'efficacité sociale, l'efficacité dans les services, l'efficacité individuelle, dans la façon dont chacun d'entre nous fonctionnons et nous interagissons les uns avec les autres, être toujours, toujours plus efficace. Et il en arrive à la conclusion que finalement, toutes les politiques, et les réformes et tout ce qu'on peut mettre en place, finalement, tout ça se dissout et tout ça est phagocyté par cette marche en avant, ce culte. Alors, au bout du compte, c'est effectivement ça, c'est un culte du progrès, une sacralisation de la technique. Technique qui, en soi, n'est pas forcément mauvaise, mais quand notre société perd son but, eh bien, nous tournons en rond. Et le progrès devient son propre but. Nous nous améliorons pour nous améliorer. Nous améliorons ce que nous faisons pour être plus efficaces. Et nous revenons toujours à ça. Et au bout du compte, voilà, aucune réforme n'arrive à sortir de ce schéma-là. Et notre société, voilà, perd la direction dans laquelle elle est. Alors bien sûr, c'est une vision assez pessimiste. Il a une critique d'ailleurs assez aussi acerbe de la chrétienté et de la façon dont la chrétienté s'est intégrée et s'est conformée à ce modèle-là dans son organisation. Et il a des mots assez durs en fait, hein, contre la façon dont les chrétiens ou dont le christianisme finalement s'organise. Une critique, moi, qui m'a un peu j'ai vécu un peu comme un coup de pied aux fesses. Je vais vous la donner parce qu'après tout, ça fait pas mal. Et donc je l'ai dit, hein, Ellul, c'était un penseur académique. Hein, il était prof dans un institut d'études politiques à Bordeaux. Et donc il a été pas très bien reçu par les intellectuels parce qu'il était, il se revendiquait comme chrétien. Il a vécu une vraie démarche de conversion et donc on va voir finalement que pour lui la résolution du problème de notre société sans but, eh bien c'était une conversion au Christ, que la solution était là. Donc je vous lis quand même ce qu'il a écrit sur les chrétiens et le fait que il a été aussi assez mal reçu par les chrétiens. Donc il dit en fait des chrétiens, ceux-ci, écrit-il, étaient et devraient être des militants. Ils sont appelés à former une communauté d'action. Or que voyons-nous? Des membres d'église mous, paresseux, engagés dans rien, qui s'assoient les uns à côté des autres le dimanche, mais qui s'ignorent et n'inventent rien de nouveau. C'est un peu violent comme description. Alors il a écrit ça, il était membre il était membre actif de l'Église réformée et quand il a essayé de faire bouger les choses, bon, il s'est rendu compte que c'était difficile. Et moi j'ai reçu ça comme un coup de pied aux fesses, hein, je me suis dit mince. Bon, alors je pense qu'on vit pas tout à fait ça quand même dans notre Église. Malgré tout, je pense que ça vaut quand même le coup de se poser la question de savoir si nous sommes effectivement mous et paresseux, engagés dans rien et qui n'inventent rien de nouveau. Je pense que Alors ceux-ci, écrit-il donc en parlant des chrétiens, étaient et devraient être des militants. Ils sont appelés à former une communauté d'action. Or que voyons-nous? Des membres d'église mous, paresseux, engagés dans rien, qui s'assoient les uns à côté des autres le dimanche, mais qui s'ignorent et n'inventent rien de nouveau. Bon, le christianisme en lui-même est très critiquable dans la façon dont effectivement dont il s'est conformé au monde dans lequel il s'est formé, en particulier dans sa relation au pouvoir et à la façon dont il a été finalement instrumentalisé par le pouvoir et donc ce qu'Ellul en fait, ce qui pousse en avant, alors c'est assez amusant d'ailleurs de voir qu'il a écrit, il y a deux parties dans son œuvre, une partie académique où il parle donc justement de la société technicienne, une analyse sociologique de la société, les mécanismes qu'il a qui la font fonctionner et rien ne fonctionne comme ça devrait fonctionner. Et puis il a toute une partie de son œuvre en fait qui est théologique. Et finalement, la réponse aux questions qu'il pose dans la partie académique, en fait, bien, se trouve dans la partie théologique, où il dit voilà, la solution, c'est une révolution, mais non pas une révolution sociale, mais une révolution individuelle, une révolution qui commence maintenant, tout de suite, dans le cœur de chaque personne, un changement de vie par la rencontre avec le Christ, qui nous permet de sortir justement de cette recherche sans but d'une efficacité toujours plus grande. Concrètement, alors il propose différentes choses. Je vous les donne là juste rapidement parce que c'est pas forcément l'objet de cette prédication. Mais il propose par exemple de poser des limites à la technique justement. Donc lui par exemple, il a toujours refusé d'utiliser les voitures. Une automobile. C'était une façon pour lui de dire la technique n'envahit pas toute mon existence et n'est pas quelque chose à laquelle je vais finalement tout sacrifier. Ce n'est pas une valeur ultime. Donc, poser des limites à la façon dont l'efficacité peut remplir nos vies. Donc, il revendique la paternité d'une appellation qui est très utilisé encore maintenant, essentiellement dans le milieu altermondialiste et le milieu en fait qui prône la décroissance. Donc Ellul, il fait partie des penseurs qui justement alimentent cette façon de réfléchir sur la société. Et donc il propose de penser globalement et d'agir localement. Donc avoir une compréhension globale des phénomènes, mais quand on s'engage, ne pas chercher à le faire de façon nationale ou global, parce que quand on fait ça, eh bien, on retombe dans les mêmes travers que tout ce qu'on a pu faire auparavant, où tout se résume à devenir plus efficace. Mais quand on agit, eh bien, on agit localement, dans des petites structures qui ont une taille humaine et qui permettent finalement de trouver un sens à la pratique et à la mise en œuvre de changements concrets et voilà. Donc c'est pour ça que je pense que une petite communauté comme la nôtre peut être disons un endroit où cette lutte contre la conformité sociale prend sa place et peut s'incarner. Et ensuite il termine aussi en disant que l'Église doit lutter contre la recherche de puissance, la façon de l'homme naturel cherche à dominer, c'est la conséquence de la chute, il cherche à asseoir sa domination et sa puissance. L'Église a participé à ça, elle est entrée dans un mécanisme de puissance, de domination, d'imposer ses vues et donc un des moyens de lutter contre ça, c'est de refuser effectivement la puissance et la domination. Alors je vais revenir juste à mon texte pour conclure. Dieu nous a donné à l'homme une autorité sur la nature, une autorité que le péché a dénaturée, en une recherche effrénée de domination, de puissance, d'écrasement. Mais Dieu nous a donné un modèle pour que de notre autorité. Le modèle de notre autorité, c'est le Christ. C'est lui qui incarne notre façon d'être au monde. Donc notre société qui tourne en rond, qui n'a pas de but, qui s'auto-persuade que le but c'est la croissance, l'amélioration, grandir, toujours grandir, mais pour en faire quoi? Notre société est incapable de répondre à cette question. Et Jésus nous invite, lui, à ne pas nous conformer à ce modèle de société. J'ai lu tout au début du culte, donc cet encouragement qu'il nous donne de porter notre croix, de ne pas chercher à sauver notre vie, mais de lui donner notre vie. Notre texte de ce matin nous invite à agir, parce que Dieu nous donne une autorité. Il nous donne une capacité à agir dans notre société, dans nos relations, là où il nous a placés, et il nous montre que cette action qu'il place devant nous s'inscrit dans un projet et s'inscrit dans des limites. Et c'est lui qui fixe le projet et les limites. Les limites, c'est la gloire de Dieu. On dit souvent que notre liberté s'arrête ou commence celle des autres. Moi, je pense que bibliquement, il serait plus juste de dire que notre liberté s'arrête et finalement se construit pour la gloire de Dieu. La vraie liberté, c'est de pouvoir s'inscrire dans le projet de Dieu pour nous, un projet qui est de le glorifier, et sa gloire devient la nôtre. Donc après, c'est à nous de trouver le moyen, de trouver les moyens de mettre en œuvre cette autorité que Dieu nous donne, trouver le moyen pour ne pas nous conformer. Et c'est difficile, hein. C'est difficile de ne pas se conformer. De ne pas se conformer à une société sans direction. C'est à nous de trouver les moyens de porter cette croix que Dieu nous donne à porter pour le monde. Parce que la façon dont Jésus a mis en œuvre son autorité, ça a été de servir et de sauver le monde. Donc que le Seigneur puisse vous conduire dans la façon dont vous allez pouvoir répondre à son appel.